Bonjour. Bonjour à tous. Je vous souhaite encore une cordiale bienvenue à vous tous qui êtes ici pour la première fois ou depuis seulement quelques fois. Je suis très content de vous voir tous ce matin. C'est la rentrée. Nous sommes heureux de nous retrouver. Mais nous gardons la même habitude, toujours, d'étudier ensemble la parole de Dieu dans cette église, parce que nous savons qu'elle est pour nous une nourriture. Et si on ne mange pas, on meurt. Nous aimons cette parole et nous savons que nous en avons un besoin profond. Et ce matin, ce n'est pas mes mots à moi qui vont compter. Je suis exactement comme chacun d'entre nous ici ce matin, dans la même condition. Nous sommes tous égaux. Mais ce qui fait force, ce qui fait autorité, c'est les paroles du Seigneur. Et ce matin, je vous propose qu'ensemble, on regarde, on observe, on essaye de comprendre un passage tout simple qui est dans l'évangile de Luc. Je vous laisse trouver l'évangile de Luc au chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24, et nous lirons à partir du verset 13, donc. Ce texte parle d'un chemin parcouru par des hommes, et souvent nous reprenons dans le quotidien cette expression que la vie est une longue route, un long chemin, et peu importe où nous sommes tous sur le chemin de notre propre vie, plus ou moins chaotique, plus ou moins droit, et ce chemin durera l'éternité. La mort physique n'est pas la fin de tout. Notre âme vivra éternellement. Et ce qui différencie tout, ce qui est capital pour nous, c'est pas de trouver sa voie, c'est de suivre celui qui a la clé, le seul qui peut nous mettre sur le bon chemin, qui est Jésus. Et là, nous avons donc concrètement, vous allez le voir, des personnes qui sont sur un chemin. Je ne vous en dis pas plus et je commence donc à lire le texte au chapitre 24, verset 13. Et voici, ce jour même, le jour de la prétendue résurrection de Jésus, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi donc ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, le tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous. Reste avec nous car ce soir, car le soir pardon, approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Voilà, jusque-là, le texte biblique. Alors, ce texte, de prime abord, la première fois que je l'ai lu, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris grand-chose, vraiment. Et on va, ce matin, essayer de le comprendre et d'en dégager vraiment pour nous, dans notre vie, des conseils, des commandements, un réconfort qui est intemporel, qui est pour toujours. Le contexte de ce passage. Rappelez-vous, Jésus, 3 jours avant, a été crucifié sur une croix. Pendant 3 jours, tous ses disciples, toutes les personnes qui le suivaient, sont vraiment perplexes. Que va-t-il se passer? Va-t-il ressusciter? Oui ou non? La rumeur court 3 jours après dans tout Jérusalem que effectivement Jésus serait bien ressuscité. Et Jésus se serait présenté d'abord à des femmes. Et ces femmes sont allées voir les apôtres qui eux-mêmes sont perplexes. Pierre lui-même a couru jusqu'au tombeau pour voir la tombe et il l'a trouvée vide. Mais pour lui, ce n'est pas une preuve suffisante. Parmi tous ces gens dans Jérusalem, il y a 2 personnes qui vont partir à Emmaüs. Et toutes ces personnes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont perturbés, sont troublés profondément et dans le désarroi. Parce que celui qu'ils attendaient comme étant le sauveur, le libérateur, est mort. Celui en qui ils avaient placé toute leur confiance. Pour certains, tout quitter, abandonner travail, famille. Celui qui leur promettait tout plein de choses est mort. Quelle déception. Alors, qui sont ces 2 disciples? Alors, tout ce qu'on sait d'eux, c'est rien. On ne sait absolument rien de ces 2 personnes. Ils sont inconnus, il n'y a que Luc qui en parle. Et la seule chose, le seul détail qu'on a, oui, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Cléopas. L'autre, on ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Peut-être un ami, peut-être même sa propre femme, nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils venaient d'Emmaüs? Peut-être qu'ils avaient quitté cette ville pour suivre ce mouvement qu'ils avaient entendu, qui tout ce qui se passait à Jérusalem, ce fameux prophète. Peut-être que non, en fait, et qu'ils quittaient Jérusalem et que Emmaüs était simplement une étape de leur voyage. Nous n'en avons aucune idée. Le verset 22, par contre, où ils citent, ils disent des personnes d'entre nous. Donc, nous avons quand même un indice qu'ils étaient assez proches du cercle, proches vraiment de Jésus, les apôtres, parce qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé le matin même avec ces femmes qui se sont rendues au tombeau, qui l'ont trouvé vide, et que Pierre, lui aussi, est allé courir là-bas. Donc, quand même, une proximité. Ils connaissaient bien les apôtres, et probablement, on peut en conclure que ces personnes avaient vu Jésus plusieurs fois, l'avaient entendu, du coup, aussi, enseigner, l'avaient vu vivre. Peut-être même qu'ils étaient à Jérusalem, lorsque Jésus a fait cette entrée triomphale. Peut-être même qu'eux aussi ont jeté leurs vêtements par terre pour le faire passer.
Alors ils sont sur le retour 3 jours après. Et l'un comme l'autre, ils n'arrivent pas à se réconforter.
Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer le désespoir qu'avaient ces deux gars. Et en pensant à ça, je me suis dit, dommage, c'était un dimanche. Si ça avait été un lundi au mois de novembre et qu'il pleuvait, ça aurait été le pompon. Quelle situation désastreuse pour eux. Ils ont tout perdu. Quand on perd tout espoir, toute espérance, que reste-t-il ?
Ils laissent tout derrière eux, l'excitation, la joie, l'espérance, et ils s'éloignent de Jérusalem, cette ville sainte, bien triste, le cœur lourd de déception et d'incompréhension. Et l'image que j'ai quand je pense à ces deux personnes, c'est celle que l'on voit souvent malheureusement à la télé de ces réfugiés qui partent en exil, qui sont sur le bord de la route et qui n'ont plus rien, et qui sont bien tristes. Il ne leur reste plus que leurs yeux pour pleurer les pauvres. Et ils sont, eux, dans la même situation.
Est-ce que ce matin, peut-être, vous avez une déception, une désillusion, une attente envers Dieu qui n'est pas là, des incompréhensions, des doutes? Vous êtes perdu, vous marchez, mais peut-être vous ne savez même pas où vous allez. Eh bien, ensemble, on va voir comment Jésus rencontre ces deux personnes et comment il va les toucher. C'est extraordinaire.
Jésus, effectivement, qui est ressuscité, choisit de se révéler à ces deux personnes totalement inconnues. Pourtant, il y avait les apôtres. Pourquoi ne s'est-il révélé avant tout à eux ? Pourquoi a-t-il choisi deux inconnus ? Deux petites gens qui marchent sur un petit chemin, d'une petite route. Jésus a choisi d'aller à leur rencontre et il connaît ces deux personnes. Et le fait qu'il les connaisse et qu'il aille vers eux prouve son amour pour eux. Ces inconnus, ces anonymes. Et ce que cela nous apprend de Jésus, c'est que toute personne anonyme que je suis dans cette vaste planète, tout chrétien anonyme que je suis dans ma vie, Jésus me connaît, il s'est sacrifié pour moi et il désire faire le chemin avec moi. Quelle nouvelle extraordinaire! Et je suis allé quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment fan d'un groupe de rap. Et j'ai eu la chance d'aller à plusieurs de leurs concerts. Donc bon, j'étais loin d'une espèce de stéréotype d'adolescente complètement écervelée qui crie dans la foule. Mais j'étais assez proche de la scène pour vraiment voir leurs yeux. Et c'était des gars vraiment que j'admirais. Tout ce que j'espérais, c'était de croiser leur regard. Vous savez, ils bougent les bras comme ça et puis on essaye qu'ils nous voient et on se fait coucou et on a l'impression d'avoir partagé un semblant, un éclair de partage de quelque chose, quoi. On s'est vu. Il m'a vu, il a posé les yeux sur moi. Lui, cette star qui est tout le temps à la télé, moi qui étais un inconnu, il m'a vu. Mais combien de fans sont connus des grandes stars? Combien aimeraient être des VIP? Par exemple, aux yeux du Seigneur, on est tous aussi importants et la même et immense valeur qui fait que pour chacun de nous, il a donné sa vie. Et ça, c'est une immense nouvelle de l'Évangile. Et c'est une grande beauté, c'est que nous avons tous la même valeur auprès de Dieu. Et devant lui, à la croix, nous sommes tous à la même place, à genoux, pour le remercier et le contempler, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et si ce matin, je crois que c'est Armel qui parlait de la valeur de la vie, du sens de la vie qui se trouve en Christ, on est exactement là-dedans. J'aurais pu donner comme titre, comme annonce de ce message, quel est le sens, la valeur de la vie, ça aurait été très prétentieux. Mais au final, ce texte nous en donne aussi des éléments. Si on se pose la question de la valeur de notre vie, la réponse est là. Le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est capable de créer un univers et un bébé, me connaît moi et m'aime et veut me rencontrer. Alors continuons cette rencontre. Où est-ce qu'elle se passe ? Sur une route. En marchant, on revient trois fois dans le texte. Jésus, sur terre, aimait vraiment rencontrer les gens dans des lieux un peu improbables, dans des lieux où on n'a pas l'habitude. Certes, il y avait les synagogues, lieux de culte officiels où on enseignait la parole de Dieu, mais il rencontrait des gens à leur travail, en voyage, à la maison, sur le marché, lors d'une réception, dans la rue, même presque sur le peloton d'exécution, certains. Il en a même rencontré sur la croix, pour dire. Et il ne faut pas oublier que, normalement, Dieu, on ne le rencontre pas comme ça, selon l'Ancien Testament. Dieu est dans le temple, la présence de Dieu est symbolisée dans le temple, et dans le temple, dans une pièce à part, séparée par un rideau qu'on appelle le lieu très saint. Et personne ne pouvait aller comme ça et dire « Ah, je vais aller parler à Dieu, j'ai des trucs à lui demander, ou il faut que je me confesse. » Non, non, non. On ne s'approchait pas de Dieu. On ne pouvait pas avoir de relation avec lui. Il fallait que ce soit un lévite, un sacrificateur, qui ait fait je ne sais pas combien de purifications et offert de sacrifices, qui pouvait lui seulement aller dans le lieu très saint et s'adresser à Dieu. Et Jésus, en venant sur terre, en s'étant dépouillé de cette gloire qui rend inaccessible la présence de Dieu envers nous, Jésus, dans sa vie, est allé rencontrer des personnes de partout. Et quand il est mort sur la croix, donc ce rideau s'est déchiré, symbole qu'il n'y avait plus de séparation entre Dieu et les hommes, parce que Jésus a payé ce qu'il fallait pour que nous puissions tous retrouver une communion avec Dieu. Le pardon, la réconciliation. Jésus est encore là une fois celui qui rejoint ces personnes. Il est celui qui va les accompagner. Certes, eux, ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Ils l'avaient même vu sûrement de leurs propres yeux. Mais apparemment, ils ne l'avaient jamais rencontré. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est fort parce que on peut avoir toute notre vie entendu parler de ce Jésus, être même venu à l'église toute notre vie en ayant entendu parler de lui, sans jamais l'avoir véritablement rencontré personnellement. Tous les jours, on peut le rencontrer. Si ce matin vous vous reconnaissez, vous dites « Ah ouais, tiens, on dirait moi, c'est vrai que je le connais pas vraiment ». Eh bien, ce matin, vous pouvez apprendre à le connaître véritablement et commencer un bout de chemin avec lui. Et nous allons voir que dans cette discussion, dans ce parcours, certes, il faut un chemin de terre, mais aussi un chemin dans leur cœur. Il y a deux cheminements qui sont en parallèle. Mais une chose nous intrigue tous. Quand on lit ce texte, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas reconnu? Question que tout le monde se pose. Alors, je ne suis pas un théologien, un exégète de la parole. J'ai lu des commentaires et il y a plusieurs pistes qui nous sont données. Certains disent que c'est parce qu'il y a l'obscurité du soir. Peut-être. Rien ne nous indique que c'est le soir. On sait que c'est plus tard dans la journée, ce n'est pas le matin, mais on ne sait pas si c'est le soir. D'autres disent que c'est la tristesse qui les aveugle, l'incrédulité qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus. Enfin, au bout de quelques heures, quand on marche ensemble, c'est étonnant quand même. Et leurs yeux, nous dit le texte, étaient empêchés de le voir. Une formulation un petit peu énigmatique. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. D'autres pensent, et c'est ce que je partage aussi moi-même, c'est que leurs yeux étaient empêchés de le voir par quelque chose d'extérieur, ou plutôt par quelqu'un. Et c'est Christ lui-même qui ne voulait pas qu'ils le reconnaissent comme il était. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est vrai qu'il aurait pu se montrer réellement et leur dire « Ohé, les gars, c'est bon, on arrête de pleurer. Regardez, c'est moi, c'est Jésus. Voilà, je suis ressuscité, tout va bien, on se calme. Et voilà, c'est génial et on va manger tout de suite. Pas besoin de partir à Emmaüs. » Mais non. Il choisit de les questionner et de cheminer avec eux, de partager, de les écouter. Cette question que va poser Jésus, vous parlez de quoi ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi parlez-vous ? Elle peut sembler, mais de prime abord, un petit peu stupide. Et c'est ce qu'ils lui disent. Mais attends, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est l'événement. Tout le monde en parle. Tu dois forcément savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Le procès, la crucifixion, tout ça. De quoi parlez-vous ? Cette question qui pourrait sembler venir d'un Jésus qui est à côté de la plaque, en fait, démontre son infinie sagesse, son infini tact et sa finesse. Jésus sait exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans le cœur. Leur état d'esprit, c'est la désillusion. Ils ont l'air attristés, nous dit le verset 17. Et ils ont une pensée unique, noire, qui tourne dans leur tête. C'est « nous espérions ». Nous espérions qu'il soit celui. Mais hélas, nous espérions mais. L'espoir n'est plus là. Ce mais n'attend plus rien d'autre. Et c'est sur le chemin de cette désillusion, de ce vide total, que Jésus va faire route avec eux. Et c'est au moment où eux, ils sont pleins de questions, qu'ils les rencontrent. Et ça, c'est encore un enseignement pour nous, c'est que Jésus n'attend pas que nous n'ayons plus de questions. Il n'attend pas que nous soyons bien lisses, que nous soyons bien en forme pour venir et surtout pour désirer prendre l'initiative de venir marcher avec nous. Et ils sondent leur cœur. Et ils veulent leur apporter la vérité. Et quelle réponse va-t-il leur donner à tout ça ? Alors je vais relire les versets 25 à 27. Il leur donne une réponse. On ne s'y attend pas trop quand ils lui disent ça. Et lui, il leur dit, verset 25, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Au lieu de se dévoiler tout de suite, comme j'en parlais tout à l'heure, de couper court à leurs doutes, de couper court à leurs interrogations, Jésus a choisi dans son infinie sagesse de leur expliquer qu'ils doivent voir sa vie, sa mission, l'annonce de sa venue, sa mort et sa résurrection dans la perspective globale du plan de Dieu. La croix et la résurrection dans le contexte de la révélation de Dieu. Et il leur explique qu'il est le chaînon manquant, la pièce indispensable entre l'Ancien Testament et ce qu'il est en train de se passer. Car le problème des Juifs, c'est qu'avec le temps, à cette époque-là, depuis le temps qu'ils attendaient le Messie, beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de traditions s'est entremêlé. Et ils ont fait beaucoup de suppositions. Et donc, ils avaient une idée personnelle, vraiment, de ce que serait le Messie. Et finalement, ils en avaient oublié les Écritures. Et Jésus leur rappelle les Écritures. Jésus est à la fois le berger d'Israël et le roi des rois. Aussi, il est le serviteur souffrant de l'Éternel et l'agneau. Et il est l'agneau et le lion. toutes ces personnes. Et il fallait qu'ils souffrent. Jésus les conduit à réaliser, non pas par un flash qui arrive, une expérience extraordinaire, mais par la réflexion à la lumière de la parole de Dieu, qu'il est le Messie et le serviteur souffrant de l'Éternel. Et que le judaïsme, tout ce en quoi ils ont fondé leur espérance, n'a de sens qu'en lui. Alors pourquoi fait-il ça? C'est vrai qu'il aurait pu, comme on le disait, faire une grande apparition étincelante. Il l'a fait à Paul. Il s'est révélé à Paul d'une manière radicale. Mais autre contexte, avec un autre but. Mais là, il se révèle en leur faisant un exposé de théologie biblique, comme on pourrait avoir dans un cours d'une étude biblique, quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pendant 3 ans, les disciples ont vu Jésus. Pendant 3 ans, ils ont vu des miracles. Ils l'ont entendu, ils l'ont écouté, il était là, quoi. Il était vraiment présent auprès d'eux. Mais maintenant, ce que veut Jésus, c'est que la vue soit remplacée par la foi. Ils n'avaient aucun intérêt à faire un miracle, apparaître de façon miraculeuse vraiment devant eux. Il veut que la foi remplace la vue. Une foi, pas n'importe laquelle, mais une foi enracinée et nourrie dans la parole vivante de Dieu, nourrie par le Saint-Esprit. Jésus veut que ces hommes placent leur espérance dans la réalité de l'accomplissement du plan de Dieu. Ce plan a été annoncé et il s'est effectivement réalisé. Et Jésus leur démontre tout ça. Certains attendent dans leur vie beaucoup d'expériences extraordinaires. Voir des choses, la vie avec Dieu, c'est forcément des grandes expériences. Et si moi, je ne vis pas ces grandes expériences, ben, je ne suis pas un chrétien au top. Je ne suis pas une personne qui vraiment est dans la foi. Mais là, Jésus montre que la foi, ce n'est pas que ça. La foi, c'est aussi un cheminement avec lui. Une marche. Et c'est difficile, ils ont des crampes, c'est long. C'est une marche. Et c'est aussi, surtout, fondé sur la parole de Dieu. Et si on imaginait ce qu'il leur a enseigné? Il a lu avec eux le psaume 22 qui annonce, qui raconte presque mot pour mot la crucifixion. Ésaïe 53, ce serviteur souffrant qui a été brisé, humilié. Et Jésus leur dit, ça, c'était Jésus. Il le fallait qu'il fasse ça. Il le fallait. Je vais demander à Jean-Marc, David, Charlot, du groupe Yatal, de venir. Ils ont composé un chant qui s'appelle justement « Il le fallait » et qui explique pourquoi Jésus a dû faire tout ça. Et je trouve qu'il colle vraiment bien à ce que nous étudions aujourd'hui. Alors je les laisse faire.
Thank you.
Il le fallait qu'il souffre. Excusez-moi. Sur la croix, c'est ça qui leur explique tout ce qu'il a souffert pour eux. Tout ce qu'il a souffert pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est pas arrivé par hasard, il le fallait. Et quand il leur explique tout ça, on verra plus tard. Mais déjà, comme nous ce matin, comme moi, quand je redécouvre ça une énième fois, mon cœur se réchauffe. Et leur cœur se réchauffe. mais pas d'un feu follet, d'un feu de paille, mais du vrai feu, d'un brasier profond que Christ est en train d'allumer lui-même dans leur cœur. Et puis, à force de marcher, on arrive à destination. Alors, c'est la fin de la journée et Jésus semble vouloir continuer. On sait qu'il a plein de choses à faire avant de finir vraiment par retourner au ciel. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le pressent. Reste avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Ne t'en va pas. Ils passent un tellement bon moment ensemble. Et je trouve que c'est une très belle image de la vie chrétienne, où Dieu prend l'initiative de venir à notre rencontre. Et nous, nous le pressons de rester avec nous. Ça va dans les deux sens. Et ça me rappelle un verset de l'Apocalypse qui parle un petit peu presque de cette rencontre, ce moment perpétuel. Alors qu'une rencontre, forcément, normalement, c'est éphémère. Mais Apocalypse 5:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette phrase prend tout son sens. « Moi avec lui et lui avec moi. » Souvent, on utilise cette phrase pour expliquer l'évangile à des personnes qui ne le connaissent pas. C'est une magnifique image. Mais cette image s'adresse à une église, à des chrétiens, à ceux qui ont déjà accepté Christ. Et il fait ce rappel-là. Ouvrez-moi la porte. On peut être chrétien. On peut même être une assemblée où le Seigneur vient et tape à la porte. Il dit, ohé, j'aimerais bien rentrer et qu'on passe du temps ensemble. Et comme ses disciples, qui ne voulaient pas simplement passer juste un instant, mais toute la journée, nous devons vraiment chercher à vivre cette vie, cette rencontre, du matin au soir, tous les jours de notre vie. Donc Jésus accepte, et ils vont prendre un repas, ensemble. Et là, ils ne savent toujours pas que c'est Jésus. Ils passent un très bon moment avec cet homme qui les enseigne, qui leur apprend plein de choses. C'est passionnant, mais ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Et Jésus fait quelque chose qui bouleverse les mœurs. Il se met en bout de table, il prend le pain, il rend grâce, il remercie Dieu pour ça, il le rompt et il leur donne. Normalement, c'est le rôle du chef de famille de faire ça, du père qui doit faire ça. Et lui se met dans cette position de père. Lors de son dernier repas avec ses apôtres, Jésus leur avait enseigné que son corps serait rompu sur la croix comme du pain et que son sang coulerait comme du vin à flot pour les laver de leurs péchés. Ça, les disciples d'Emmaüs le savaient parce qu'ils connaissaient bien les apôtres. Et en 3 jours, vous pensez que les apôtres ont dû raconter cette scène des dizaines de fois. Et quand Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils réalisent: on a passé la journée avec Jésus, le ressuscité. Mais c'est pour ça que notre cœur brûlait toute la journée avec lui. On a compris, il nous a montré la parole, la révélation de Dieu. On sait maintenant, il est ressuscité. Et aussitôt, il laisse tout tomber, Jésus a disparu, comme il est arrivé. Ils sont pas tristes qu'il soit parti, parce que maintenant ils ont compris qu'il est ressuscité. Donc ce n'est pas un problème qu'il soit plus là physiquement. Et ils courent, ils font 12 km by night jusqu'à Jérusalem. Ça ne devait pas être facile, surtout quand on a fait déjà 12 dans la journée et qu'on a levé le moral à zéro avec toutes ces émotions. Ils courent et ils vont voir les apôtres et ils disent: Pierre avait raison, les anges avaient raison, Marie avait raison, Jésus est ressuscité. C'est extraordinaire, quelle merveilleuse nouvelle. Aussitôt, ils portent cette nouvelle en eux et ce feu brûle profondément. Dans ce texte, on découvre Dieu, on découvre son visage en Jésus. Ce n'est pas un scoop, Ce n'est pas des événements extraordinaires. C'est un chemin avec nous. Et c'est un marathon. Et ce texte nous interroge sur les racines de notre foi. Sont-elles fondées sur l'expérience, sur des événements? Attendons-nous une chose extraordinaire qui intervienne dans notre vie pour ranimer cette foi? Jésus montre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que ça se vit au quotidien, dans le chemin, avec lui. Et Dieu n'a pas choisi des spécialistes pour confier sa mission, il a choisi des anonymes, comme chacun d'entre nous. Je ne crois pas qu'il y ait de stars parmi nous ce matin, non. On est tous des anonymes, et on est porteurs de ça. Et si on est dans un temps de doute, un temps de remise en question, c'est normal. La foi n'est pas exempte de doute, de bouleversement, parce qu'on est bien sur cette terre. Si intellectuellement, notre foi est désemparée, bouleversée par ce qui se passe autour de nous, nous devons nous rappeler que tout, absolument tout, prend sens en Jésus-Christ. Les Écritures prennent sens en Jésus-Christ. L'histoire de l'humanité, mon histoire, n'a de sens qu'en Jésus-Christ. Je suis fait pour lui appartenir, pour marcher avec lui, et il veut me rencontrer. À notre tour maintenant, nous allons prendre ensemble la Sainte Cène. Jésus a rompu ce pain, et depuis 2000 ans, tous les disciples, tous ceux qui croient en Jésus, rompent ce pain et prennent le vin pour se rappeler de ce qu'il a fait pour eux. Pourquoi il le fallait ? Pourquoi il le fallait qu'il passe par la croix ? Prenons cette Sainte Cène avec un cœur ardent, un cœur brûlant. Rappelons-nous cette œuvre immense de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, l'importance capitale pour notre vie, pour l'histoire de notre humanité. Quel Dieu merveilleux, extraordinaire nous avons. Jésus nous a laissé ça à nous, ses disciples, exclusivement pour nous, ce grand cadeau, que nous puissions tous nous rappeler ensemble aussi ce qu'il a fait pour nous. Peut-être, vous êtes là ce matin, comme je vous le disais, et vous ne l'avez pas encore rencontré. Sachez que ce matin, aujourd'hui même, il veut vous rencontrer. Il vous presse pour cela. Il tape à la porte. Il est avec vous sur le chemin. Il faut se détourner de ce que l'on voit nous-mêmes et apprendre à le connaître. Et que ce temps, pour vous, qui n'avez pas encore rencontré Jésus, soit vraiment un temps où justement vous pouvez faire ce premier pas avec lui si vous le voulez. Un premier pas. Alors commencera aussi votre chemin d'Emmaüs à vous, où Christ marchera avec vous. Ce sera un chemin. On ne découvre pas tout comme ça. Jésus a passé du temps à tout leur expliquer. Et lui encore passera ce temps avec nous. Je voudrais que 5 frères rapidement se lèvent et viennent nous aider à distribuer le pain et le vin, s'il vous plaît. Et juste avant, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie du fond du cœur parce que sur mon chemin dans ma vie où j'étais perdu, où je ne savais pas où aller, où j'étais bercé de désillusions, de doutes, tu es venu à ma rencontre, tu m'as accompagné, tu m'as aussi écouté et tu as répondu à mes questions. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi. Reste avec chacun d'entre nous. Nous voulons brûler d'être avec toi et d'apprendre toujours plus à te connaître. Et nous ne voulons pas être tièdes ou éteints. Mais Seigneur, que tu entretiennes une flamme en nous. Que notre vie, que nos choix soient toujours des choix qui nous conduisent à entretenir ce feu brûlant pour toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui le mérites. Que ce feu de notre foi, de notre amour vraiment soit entretenu, Seigneur. Viens à notre secours, s'il te plaît. En ton nom. Amen. Encore deux personnes.